Que le nom du Seigneur soit béni. Quelle grâce de pouvoir nous retrouver chaque dimanche sous le regard de Dieu. Vous savez que c'est un bienfait. Ne nous habituons jamais au bienfait du Seigneur. Nous avons entrepris un sujet, à savoir les fiançailles, le mariage, le couple, la famille. C'est un sujet bien sûr sérieux, nous allons encore le voir ce matin. Alors, Exode chapitre 18, verset 1er. Pendant que vous cherchez le texte, j'ai dit dans la prédication, c'est certainement ce qui a poussé certains à commenter qu'il y a certaines églises, parce que j'avais pris un texte de Timothée où l'apôtre Paul dit que dans les derniers jours, il y aura de faux docteurs avec des doctrines de démons qui enseigneront de ne pas se marier. En tout, il y a une communauté en France qui s'autorise à célébrer des mariages religieux sans passer par les autorités civiles. C'est un délit. Alors moi, je l'avais lu il y a peut-être 15 ans en arrière, donc ça m'est revenu dans la prédication mardi et je l'ai souligné que c'était passible de prison et d'une amende. Alors j'ai trouvé l'article, si vous tapez sur internet code pénal, les lois sur le mariage, c'est l'article 433-21, regardez l'article, il faut le dire, on peut l'inclure dans une prédication, parce que quand même toute la Bible nous enseigne à nous soumettre aux autorités. Tout ministre du culte qui procédera de manière habituelle aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil sera puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Voilà, j'ai l'article si vous le voulez. J'en ai fait plusieurs, au cas où plusieurs le voudraient. Mais mes frères et sœurs, c'est exact. Les lois, c'est les lois. Quelqu'un qui conduit sans permis, il transgresse une loi. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Quelqu'un qui se marie. Et hier, par curiosité, j'ai regardé sur Internet tous les, vous savez, tous ces débats qu'il y a parfois, ces forums. Mais je peux vous dire, parmi même les chrétiens parfois, écoutez, un chrétien, il est soumis aux autorités du pays. Oui ou non? C'est comme ça. S'il a un fardeau, rendez à César ce qui est à César. Il y a des choses spirituelles qui sont éternelles et beaucoup plus profondes, c'est vrai, mais les choses temporelles, eh bien les chrétiens, nous y sommes soumis. Et je vous assure, c'est quand même un souci, parce que nous avons de plus en plus de personnes qui pensent que le mariage à l'église, c'est spirituel. Le mariage à l'église, c'est le désir de deux époux qui croient en Dieu, de réclamer la bénédiction du Seigneur, de réclamer la bénédiction de l'église. Mais le mariage, il est devant les autorités civiles du pays. Il faut bien le comprendre, ça. Et j'ai regardé d'autres textes, mais dans presque tous les pays francophones, en Afrique, etc., c'est le même topo. Prison et amende pour tous les ministres du culte, que ce soit des prêtres, des pasteurs ou des imams, qui célèbrent des mariages sans avoir reçu le papier de l'autorité civile. Alors il faut y faire attention, mes frères et sœurs. C'est quand même sérieux, moi je vous le dis, parce qu'on va aller de plus en plus vers des temps où on marchera beaucoup plus avec les émotions et les sentiments qu'avait la parole du Seigneur. Voilà, croyez-moi, avec ce que j'ai lu hier, je vous assure, j'y suis resté une heure sur Internet, pour voir ces choses, c'est vraiment alarmant, tous les commentaires qui expliqueraient que le mariage à l'église est plus important que le mariage devant les autorités civiles. Ce n'est pas vrai. Bien sûr, parce que nous, les chrétiens, c'est important parce que nous on met le Seigneur en premier. Mais je peux vous dire qu'il y a des lois humaines et un chrétien, il les respecte. Exode chapitre 18, nous allons voir un autre sujet ce matin qui complète celui que nous avons vu dimanche dernier. Exode chapitre 18, verset 1er. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, regardez bien, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora, l'un se nommait Guershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger », et l'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru, et il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu, et il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils. » Amen. Peut-être que ça ne vous dit rien pour le moment, mais vous verrez à la fin de la méditation qu'il y avait eu un problème dans le couple de Moïse. Moïse, tout homme de Dieu qu'il a été, a eu des difficultés dans son foyer. Vous avez vu Jéthro, cet homme, le beau-père. On va terminer peut-être avec cette notion des parents et des beaux-parents, l'importance d'avoir des beaux-parents et des parents qui nous aident. Nous voyons donc cet homme qui ramène à Moïse sa femme parce qu'elle était partie. Moïse lui avait demandé de partir. Alors, on va voir au commencement d'abord, dans Exode chapitre 2, 21. Vous savez, même dans les couples des hommes de Dieu célèbres, il y a eu des problèmes. Ne dites pas comme certains qui disent, moi, si c'est la volonté de Dieu, on n'aura pas de problème. Ça, c'est rêveur, ça. C'est des gens qui rêvent, ça. Mais il y en a qui le disent. Si on est dans la volonté de Dieu, chérie, on n'aura pas de problème. On peut être dans la volonté de Dieu et avoir des problèmes. Il faut être sérieux, quand même. Exode, chapitre 2, verset 21. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Voilà le départ. Il fuyait, ça s'est vite passé, on va y revenir. J'ai abrégé bien sûr la lecture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Guershom, car dit-il, j'habite un pays étranger. Voilà, Moïse a dû fuir, vous le savez. On peut le lire aussi quand même, c'est important parce que c'est dans une période de fuite que Moïse s'est marié. Et je ne sais pas si quand on fuit, c'est bon de se précipiter. Attendez. Alors, Actes chapitre 7, il avait un appel, Moïse. Moïse, il était conscient d'un appel de Dieu. C'était très fort dans son cœur. Quand vous lisez son histoire, si vous connaissez tous les textes sur Moïse, vous savez que cet homme avait reçu quelque chose de la part de Dieu, mais il n'était pas prêt pour cette mission. Vous savez, c'est une chose, d'ailleurs, de vouloir se marier, de vouloir exercer un ministère, ça n'est une autre d'être prêt. Vous comprenez? C'est très facile à comprendre. Mais là, il fuyait. Acte 7 résume le ministère de Moïse, un homme qui était... Regardez au verset 22, c'est quand même important. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et je peux vous dire que ce n'est pas parce qu'on est instruit qu'on est prêt à servir Dieu. Il était puissant en parole et en œuvre. Rien que ça, ça vous en donne une idée un petit peu du potentiel qu'il y avait à l'intérieur de cet homme. Mais ce n'est pas forcément le genre de potentiel que Dieu cherche. Il avait 40 ans. Lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Oui, c'était bien quand même, sagesse, puissance, parole, et il a à cœur de servir Dieu. Quand on lit ça, on dit, ça va donner, vous allez voir. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité en frappant l'Égyptien. Il pensait, ça aussi ce qu'on pense, vous voyez, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais il ne le comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux alors qu'ils se battaient et il les exhorta à la paix. « Homme, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse prit la fuite. Il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra deux fils. Il prit la fuite. Vous savez, la vie de Moïse, c'est une vie particulière. Cette vie se décompose en trois parties. Il est mort à 120 ans, il est resté en Égypte à l'école de Pharaon pour devenir le prochain Pharaon jusqu'à 40 ans. 40 ans pour se croire quelqu'un. Après, il est resté 40 ans dans le désert. Ça change, hein, du poste du futur Pharaon à garder des moutons qui ne sont même pas à vous. Hein. 40 ans pour se rendre compte qu'il n'était rien, et puis 40 ans pour voir ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui sait qu'il n'est rien. Et quel parcours extraordinaire. Il faut lire les propos de Moïse, certaines choses, comme là, il fuit. À un moment donné, quand Dieu l'appelle, il va avoir même un problème sévère, puisqu'il va dire à Dieu, mais qui suis-je? Vous savez, c'est des questions sans... On rit avec ça, qui suis-je, hein? Être ou ne pas être. On rit avec ce genre de truc. Mais quand même, quand on en arrive à se poser la question « qui suis-je ?», c'est qu'on a un problème d'identité. D'ailleurs, on a tous eu des problèmes d'identité. Je ne sais pas, ça vous est jamais arrivé à des moments, mais où j'en suis vraiment ? Rassurez-moi, est-ce que ça nous est arrivé à tous de dire « mais où j'en suis vraiment ?» Les épreuves que je viens de traverser, mais où en suis-je ? Si on n'a pas dû « qui suis-je ?», on a peut-être posé la question « mais où j'en suis ?» Oui ou non ? On a des problèmes, et c'est vrai qu'il a été élevé. C'est un Hébreu qui est élevé comme un enfant de l'Égypte. En même temps, il va être élevé par une nourrice qui, en fin de compte, est sa propre mère. Et il est là, ce garçon, entre deux cultures, entre deux traditions. Et c'est dans cette période, justement, de remise en question, de fuite, qu'il va de suite se marier. Alors, je ne dis pas que pour se marier, il faut avoir atteint la perfection. Parce que, écoutez-moi bien, il se pourrait alors qu'on mette du temps à se marier. Vous ne croyez pas ? Ceux qui veulent se marier en étant parfaits, je vous allez voir que vous ne risquez pas de vous marier. Parce que ça, c'est une grosse erreur de chercher soit à être parfait, soit à faire que l'autre soit parfait. Si vous voulez vous marier avec quelqu'un de parfait, moi, je vous encourage à opter pour le célibat définitivement. Et vous ne serez pas frustré. Je le dis franchement, parce que je crois que c'est une véritable erreur. Parce que de toute façon, les maris parfaits, il n'y en a plus. Les femmes parfaites les ont toutes prises. Hein, vous le comprenez. Non, au-delà de cette boutade, le sujet est un petit peu plus sérieux que ça. Moïse, il est en fuite, il est en crise d'identité, il est en difficulté, et il va se marier avec quelqu'un qui va s'appeler comment ? Séphora. Je ne sais pas si vous avez regardé dans un dictionnaire ce que signifie Séphora. Ça signifie petit oiseau. Alors qu'est-ce qu'il faut en déduire ? Qu'est-ce qu'il faut en déduire ? Qu'elle chantait bien ? Hein ? Vous savez qu'il y a une expression qui dit celle-là, elle a une cervelle d'oiseau. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas. Les quelques commentaires que j'ai lus sur le mariage de Moïse, tous les commentateurs sont d'accord. Tout le monde pense que Moïse a mal choisi et qu'il s'est trop vite précipité. Mais quand on a choisi, on a choisi. Quand on a pris cette décision, on a pris cette décision. Et il ne faut pas oublier que même si dans certains choix on peut se tromper, il y a la grâce de Dieu capable de transformer, capable de bénir. Moi je vous assure, j'ai vu des couples. Au départ je me suis dit, est-ce qu'ils sont faits l'un pour l'autre ? Ben, c'est ma perception, je veux dire, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais je me suis rendu compte quand même que chez l'un comme chez l'autre, il y avait de la spiritualité vraiment. Et je me suis rendu compte que quand les gens sont spirituels, ils se font l'un à l'autre. Il y a une bénédiction qui repose vraiment sur des gens qui sont spirituels, même si au départ, il n'y a pas une super osmose, il y a malgré tout, chez les gens qui sont spirituels, la capacité d'être transformé par la grâce de Dieu, la capacité de se faire à l'autre, etc., etc. Moi, je crois que Dieu bénit les situations lorsqu'elles peuvent être parfois même difficiles. Donc, il s'est marié, je le répète, en période de crise, parce que moi, je vois souvent des jeunes qui me disent « Oh, moi, je me suis marié, vous savez, j'ai eu une déception amoureuse et j'ai pris la première qui est venue. » Je l'ai vu, ça. J'ai discuté il y a 15 jours avec une personne comme ça. Elle a eu une déception amoureuse. Un mois après, elle était mariée. Un mois après. Jour pour jour, un mois après, elle était mariée avec un autre. Tenez-vous bien. Et pourtant, c'est un mariage qui dure depuis plus de 60 ans. Presque, non pas 60 ans, 50 ans. Vous voyez ? Et ils se sont fait l'un à l'autre. Vous voyez ? Bon. Donc, il s'est marié à 40 ans, Moïse. Alors, est-ce que parce que les années passent, il faut à tout prix se marier ? Parce qu'il y en a qui disent, tu te rends compte, je vais être bientôt la Sainte Catherine, je vais avoir 25 ans, il faut que j'en trouve un. Vous savez ? On le dit comme ça, mais on l'entend, ça. Je vous assure que je l'entends. Moi, je les entends, les jeunes. Plus moi, j'ai l'oreille, plus j'entends. Je vous dis, je les entends. On ne se marie pas pour imiter les autres. Il s'est marié, mais mes trois copines se sont mariées. Elles se sont mariées cette année, toutes les trois. Moi, il faut que je me marie aussi l'an prochain. Ça vous fait peut-être sourire, mais moi, je l'ai entendu, ça. Ce genre de remarque, on ne se marie pas pour imiter les autres, on ne se marie pas parce qu'on a cette espèce de complexe qu'en restant célibataire, on va être considéré comme quelqu'un de différent, comme quelqu'un même d'anormal. Moi, je pense que ce n'est pas parce qu'on est célibataire qu'on est anormal. Je pense qu'on peut très bien s'épanouir dans le célibat, faire valoir les talents que Dieu nous a donnés. Est-ce qu'un célibataire a autant de talents que quelqu'un qui est marié? Eh bien, bien sûr. C'est pour cela qu'un célibataire, il ne devrait pas se frustrer, dire, mais attends, mais un célibataire a autant de talents. Il y a même un texte dans la Bible, où même l'apôtre Paul, quand même qu'on le veuille ou non, il encourage presque le célibat pour que les gens puissent servir Dieu d'une manière beaucoup plus facile. Oui ou non? À partir du moment où les temps sont mauvais, en particulier. Alors c'est vrai que nous, il y a l'enseignement de la parole de Dieu, c'est ce que nous partageons, mais il y a, que nous le voulions ou non, l'influence de la société sur notre vie. Et la société, elle n'y va pas avec ambage, elle sait marginaliser les situations, elle sait manipuler les gens, et à force d'être manipulée par la société, nous pouvons accepter d'être justement marginalisés par rapport au célibat ou par rapport à d'autres situations. Le bonheur, nous ne le trouvons pas exclusivement dans le mariage. Écoutez les jeunes, ne vous mariez pas que pour être heureux. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi si je me marie, je serai heureuse. Fini les parents, c'est fini la maison. Il y en a qui l'ont dit ça. Je serai heureux, je foutrai le camp de la maison. Excusez-moi l'expression, mais c'est le mot que vous connaissez bien. Et je serai heureuse. On en reparlera. Le fondateur de l'armée du salut a écrit ceci. Écoutez bien, c'est très bien dit. Il ne faut pas s'imaginer que pour être heureux, il faut absolument trouver le bonheur dans le mariage, parce qu'on ne pourra jamais trouver dans le mariage ce qu'on ne trouve qu'en Dieu. Vous ne trouvez pas que c'est bien dit? Il y a des choses, on ne les trouve que dans la grâce de Dieu, que dans la communion avec Dieu. Il y a une grande partie de notre propre bonheur qui ne dépend pas de l'autre, mais qui dépend de celui avec qui nous trouvons une véritable communion. Et c'est important, parce que pour beaucoup, il y a une méprise. Pour beaucoup de jeunes, je pense que les séries télévisées ont fait vraiment un sale travail. C'est pas ma tasse de thé, croyez-moi. Mais le peu que j'ai pu voir doit énormément influencer les gens, s'ils les regardent. Et s'il est bon de tendre vers l'idéal, une fois qu'on est marié, ou quand on veut se marier, je pense que c'est bien de continuer à dire, bon, moi je suis marié, mais je veux continuer à faire des progrès. C'est le cas, mes frères et sœurs qui sont mariés. Bon, quand on n'est pas marié, on dit, bon, moi je veux quand même tendre vers l'idéal. Mais le véritable idéal, le bonheur absolu, ne se trouve qu'en Dieu. Je le répète, on ne peut pas trouver dans le mariage ce qu'on ne trouvera qu'en Dieu, ce qu'on ne trouve que dans la foi en Dieu. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Pourquoi tant de couples déchantent quelques mois après le mariage? Parce qu'ils attendaient de l'autre des choses qu'on ne trouve qu'en Dieu. Alors c'est quand même dommage de ne pas y avoir réfléchi, mes frères et sœurs. Le mariage, ça ne doit pas être une compensation parce que je commence à vieillir, je suis frustré, j'ai eu des échecs dans ma vie de célibat, alors si je me marie, je n'aurai plus ces échecs, etc. C'est totalement faux. C'est totalement faux. On ne se marie pas pour se marier. Beaucoup l'ont fait et je peux vous dire qu'ils le regrettent. Ne vous sentez pas inférieur, les jeunes, si vous êtes encore célibataire. Ne vous sentez pas frustré. Ce n'est pas une tare d'être célibataire. Vous n'êtes pas anormal parce que vous êtes encore célibataire, même si la société marginalise parfois certaines tranches de la population, ne vous sentez pas inférieur. Épanouissez-vous dans le célibat, épanouissez-vous. Servez le Seigneur de tout votre cœur. Ne vous recroqueveillez pas sur vous-même. Au contraire, utilisez ce temps que vous avez de libre pour vous épanouir, pour être une bénédiction pour les autres. Je pense vraiment que l'on peut s'épanouir, dire, tiens, je suis célibataire, tiens, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, mais plutôt que de me recroqueviller, là, de rester un mois pendant les congés, là, à rien faire, pourquoi ne pas m'investir dans des camps, dans des colos? Pourquoi ne pas aller dans des camps de famille, etc. Moi, je vais souvent dans les camps de famille l'été, Et c'est impressionnant le nombre d'adultes qui ont trouvé leur conjoint dans des camps de famille. Pourquoi? Parce que, eh bien là, dans ces moments-là, les gens qui, justement, qui aiment Jésus se retrouvent pour servir Dieu ensemble. Et on parlait dimanche dernier de compatibilité. Et je peux vous dire que là, il y a plusieurs vecteurs au niveau de la compatibilité qui se retrouvent, puisque les gens y vont quelque part dans le même but. Même si quelqu'un me dit, quelqu'un un jour m'a dit, vous savez, monsieur Gau, c'est pas bien, j'ai été dans un camp, mais j'ai pas été que pour le Seigneur. J'y étais parce que je voulais aussi me marier, est-ce que c'est pas grave? Je dis, mais non, vous avez bien fait. Il faut pas voir le mal partout quand même, attendez. Mais voyez comment on a vite fait de se culpabiliser, au contraire. Moi je dis, c'est très bien, recommencez. Mais ouais, tant qu'elle n'est pas mariée, elle a le droit de recommencer. Il n'y a pas de problème à être seul en vérité. Moïse a fait un choix. Vous avez vu, il nous a dit que Jéthro donna sa fille Séphora à Moïse. Jéthro donna sa fille Séphora à Moïse. Une fois, j'en avais parlé à ma fille, ça. Qu'est-ce que tu en penses? Que je te donne un tel. Elle me dit, papa, ça ne me plaît pas beaucoup. Ça. Mais c'est quand même une expression, parce que on donne sa fille à marier, on marie sa fille, mais en fin de compte, on ne marie personne. Ce sont les gens qui décident de se marier. Il faut bien le comprendre, ça. Ce sont les gens qui se marient. Bien sûr, on peut conseiller, on va le voir tout à l'heure. Et je crois que c'est le devoir des chrétiens, de l'Église et des parents, de conseiller intelligemment. Mais il n'empêche que même si on est très bien conseillé, la décision finale dépend de la responsabilité des deux personnes qui se marient. Parce que l'environnement a un rôle important. On joue, nous, dans l'Église, les sœurs âgées, là, les diaconesses, les frères, les pasteurs, les anciens, les parents. On joue un rôle de conseiller. Et on doit donner un avis. Vous ne croyez pas qu'il faut donner des avis? Mais il faut savoir aussi s'arrêter aux avis qu'on donne. J'en ai parlé dernièrement. Il est arrivé... Souvent, et ça, moi, ça me brise le cœur, parce que j'ai vu dans mon bureau les gens pleurer à cause de cela, des gens qui prétendent se marier à cause de la révélation des autres. J'y reviens là-dessus. Si c'est eux qui ont une révélation, si c'est eux, moi, ça m'est déjà arrivé. Monsieur Gau, le Seigneur m'a dit que je me marierais avec un tel. Qu'est-ce que vous en pensez? Si Dieu vous l'a dit, je ne vois pas moi ce que j'ai à dire. Mais ça ne s'est pas toujours passé comme... Parce que quand Dieu dit quelque chose, je ne vois pas qu'est-ce qu'on a à dire. Oui ou non? Mais vous savez, les gens, vous voyez comme quoi on peut être quand même un petit peu en difficulté. Et cette personne, un jour, a dit, je dis ça pour que vous compreniez quand même que ça ne fait pas très sérieux, quoi. Cette femme, un jour, a dit, oui, mais vous savez, Monsieur Gau m'a dit que je me marierais avec cette personne. Mais parce que je lui avais dit, eh bien, si Dieu vous l'a dit, je vous dis que vous vous marierez avec elle. Si ça venait de Dieu... Qu'est-ce que vous vouliez que moi je dise? Franchement, si ça vient de Dieu, ça ne peut pas en être autrement. Mais après, cette personne a fait courir le bruit que moi j'avais dit qu'elle se marierait et qu'avec cette personne, alors que j'avais dit que, oui, j'ai dit oui, si ça vient de Dieu, vous vous marierez. Mais ça ne venait pas de Dieu, ça venait, cette révélation, ça venait, elle avait pris ses désirs pour la réalité. Parce que c'est facile, comme quand on est chrétien, on peut transformer ses désirs en réalité par une révélation extraordinaire. Mais là aussi, c'est quand même dommage. Moi, je crois que Dieu peut nous révéler. Vous croyez que Dieu peut nous révéler? Moi, je le crois, que le Seigneur, dans sa grâce, il peut nous donner cette conviction, une approbation, une révélation, que telle jeune fille sera notre épouse, que tel garçon sera le futur époux que j'aurai, etc. Moi, je le pense vraiment, que Dieu peut donner une révélation. Mais moi, je crois tremblement, compte tenu des dégâts que ça a fait, je crois que la révélation, Dieu la donne à la personne. Si vous saviez le nombre de gens qui m'appellent, « Monsieur Gau, j'ai rêvé de vous. Ne faites pas de vélo. Je vous ai vu prendre un carton à vélo. J'ai rêvé de vous. Eh bien, mais si je faisais attention à toutes les révélations, je peux vous dire, je ne sortirai pas de la maison. » Et c'est vrai, ça. Je vous assure que c'est vrai. Je comprends que des gens puissent rêver du pasteur. Je comprends. Mais franchement, heureusement que... je comprends pourquoi il dit que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Mais il n'empêche qu'il faut faire attention aux avis des gens, quand même. Je ne le prends pas à la légère, malgré tout. Beaucoup de personnes m'ont prévenu parfois, et je crois qu'on peut nous éviter des dangers lorsqu'on prend en considération certains conseils. Mais il faut faire attention, vous comprenez bien que la direction de Dieu dans le choix de mariage, c'est un domaine tellement sérieux. C'est tellement sérieux, vous vous rendez compte? C'est des décennies et des décennies avec quelqu'un avec qui on va s'engager pour la vie, pour ainsi dire, normalement avec le Seigneur. C'est pour la vie entière et on ne peut pas aborder ce sujet à la légère. Ça ne m'empêche pas, comme vous me connaissez, de faire un peu d'humour pour détendre l'atmosphère, ce n'est pas malsain. Mais ce que je veux dire, c'est que si on est superficiel, si on prend ce sujet à la légère, il y a des gens qui sont plus mystiques que spirituels et ils vont finir par prendre, comme je viens de le dire, leur désir pour la réalité. Et on a vite fait d'influencer ses enfants. Moi, j'ai vu une jeune fille dernièrement dans mon bureau en pleurs parce qu'elle avait été justement influencée énormément par ses parents qui avaient un désir profond qu'elle se marie avec elle. Et ce tel garçon, eh bien, il a fréquenté une autre. Et ça a été un drame. Oui, faisons attention de ne pas confondre nos désirs avec une révélation de Dieu, mes frères et sœurs. Faire attention parce que, vous savez, quand on est adulte, on n'a peut-être pas pu réaliser certains rêves. Ça fait qu'on peut être frustré parfois. Oh, j'aurais aimé que ma fille soit ça. Moi, j'aurais aimé être pilote de ligne. J'aurais aimé être tennisman professionnel. Alors le gosse, on le pousse à faire du tennis et on inclut son rêve dans le gosse. Et on a poussé des enfants à faire des choses qu'ils ont détestées. Alors quand c'est pour le tennis, quand c'est même pour un aspect professionnel, à la limite, moi, je ne vois pas tellement le mal. Mais quand on force les enfants à épouser le genre de personne que nous, on aurait aimé épouser, par projection, moi, je pense qu'on peut faire des bêtises. Et il faut faire attention. Il ne faut pas manipuler nos enfants. Il faut conseiller les gens, mais il ne faut pas les manipuler. C'est un jeu dangereux. Parce que qu'on le veuille ou non, on est influençable, on influence la société. La société, est-ce qu'elle ne nous influence pas un peu quand même? Ben ouais, il faut être honnête, elle nous influence quand même un peu. Les mariages, c'est sérieux. Quand je pensais ce matin au mariage de Rebecca et d'Isaac. C'est quand même un mariage, si vous le lisez dans la Bible, vous allez voir que c'est un mariage particulier. Ce sont quand même un jeune homme et une jeune fille, ils se sont mariés sans s'être vus. Vous connaissez l'histoire. Ils ne se sont jamais vus. Alors de là à en tirer la conclusion que moi aussi, je peux me marier par Internet. Ne riez pas, certains l'ont fait, et aujourd'hui, c'est des drames. Des drames. Eh oui, Rebecca, bien sûr, si c'est la même affaire, si vous vous appelez Rebecca, allez, si vous vous appelez Isaac, et si vous vivez de la même manière que vous avez pour papa Abraham, je conviens que vous pouvez faire pareil. Mais vous comprenez bien que chaque situation est unique, mes frères et sœurs. Chaque situation est unique. Ça s'est passé dans la Bible pour ces deux-là, parce que Dieu avait un plan bien précis pour ces deux jeunes qui se sont mariés de tard quand même, mais ils se sont mariés à la façon de Dieu. Mais mes frères et sœurs, ne cherchons pas dans la parole de Dieu des situations qui vont nous servir de prétexte pour faire n'importe quoi et n'importe comment. Vous savez, moi je crois que la volonté de Dieu, dans le mariage, on la discerne, cette volonté, en apprenant à connaître l'autre. Il faut du temps pour connaître quelqu'un. Parce qu'il y en a qui sont forts pour cacher leur personnalité et leur caractère. Vous savez que c'est vrai. Est-ce que Moïse connaissait bien Séphora quand ils se sont mariés? Moi, je n'ai pas l'impression, parce qu'on voit qu'il fuit, et de suite, on le voit dans les Actes, on le voit dans l'Exode, de suite après sa fuite, de suite, il se marie. Je comprends que dans cette fuite terrible, il a certainement eu besoin d'affection. Est-ce que vous pensez qu'avec les preuves que Moïse a traversées, il n'avait pas besoin de tendresse, d'affection, d'amitié? Oui, mais je pense qu'il s'est quand même précipité. Et que pour aimer comme Dieu veut que l'on aime, il faut apprendre à connaître. Et si on prétend aimer quelqu'un sans le connaître, il y a une part d'inconscience. Croyez-moi, j'ai trop vu de femmes pleurer dans mon bureau pour ne pas avoir voulu écouter les conseils des diacres, des anciens, des parents. Eh oui, je me suis trompé. Je ne le connaissais pas. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai entendu « Ah, si je l'avais connu comme il était vraiment ». Mais si on avait pris un an ou 18 mois pour discuter sur tout, vous l'auriez connu vraiment comme il était. Mes sœurs, croyez-moi, la foi, elle n'est pas aveugle. Et l'amour, non plus. Quelqu'un a dit avec une forme d'humour, on peut le dire, même fait, l'amour est aveugle et le mariage lui rend la vue. Bon, c'est quelqu'un qui l'a dit, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais ça résume quand même bien ce qui se passe lorsque l'on se marie avec quelqu'un sans prendre le temps pour le connaître. Parce que moi, je suis sûr que quand on veut aimer quelqu'un, on va chercher à le connaître. C'est important de connaître le caractère de quelqu'un avant de se marier. C'est pas important de connaître son caractère. S'il a un sale caractère, vous ne croyez pas que c'est bien de le savoir? Moi, il me semble. Hein? La foi, quelle est sa foi? S'il va au culte une fois par an, c'est peut-être important de régler l'affaire. Moi, tu sais, je ne veux pas devenir légaliste, moi, tu sais, chérie. Moi, ça me suffit, je m'accommunion avec Dieu, tu sais. Moi, ce genre de foi-là, vous voyez, ça m'inquiéterait. Ses goûts, est-ce que c'est important de connaître les goûts de quelqu'un? Ben non, chacun ses goûts, oh, il a des goûts comme ça, c'est pas grave. Hein? Les attitudes, ses réactions, ses convictions, ses opinions. Vous allez me dire, la Bible dit qu'il ne faut pas discuter des opinions. Mais quand même, en discutant des opinions, on apprend à connaître quelqu'un. Si un jeune homme vous dit, ouais, tu sais, moi, ma mère, elle radote tout le temps, la vieille cloche, ne riez pas. Parce que s'il parle comme ça de sa mère, il parlera comme ça de la vôtre. C'est inévitable. Et je donne des exemples parce que j'ai entendu ces choses. Le véritable amour, selon Dieu, on en parlera parce qu'il y a, des gens qui disent « j'aime beaucoup ». Mais ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Aimez-vous comme je vous aimais. On en parlera mardi. La Bible nous parle de la qualité de l'amour. Ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais en fait, c'est bien de l'introduire quand même dans cette prédication. Parce qu'il y a un amour qui cherche à connaître. Si vous voulez vous marier, les jeunes, passez du temps et parlez de toutes ces choses. C'est vrai que la Bible dit de ne discuter pas les opinions. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas se disputer pour des opinions. Mais quand on veut se marier, moi je trouve que c'est important de savoir ce que l'un pense de ceci ou de cela. La politique, on n'en fait pas. Mais si vous avez quelqu'un qui est tout le temps en train de critiquer les politiciens, « Ah mais ce président, il est fou !» Moi, la Bible nous demande d'honorer les autorités. Quelqu'un qui n'honore pas les autorités, il vous aurait des problèmes. On honore les autorités. Je ne dis pas qu'on est d'accord avec les programmes politiques de tel ou de tel, mais quand on aime Dieu, on prie pour les autorités. Et on voit, en fonction des opinions de l'un, le caractère qu'il a. Et ça, vous allez me dire, oh mais là, tu sors du spirituel. Eh bien, je vais vous dire, dans la Bible, il y a le spirituel, le social, le couple, la famille, tout ça, c'est ensemble. C'est ensemble, parce que nous, c'est découpé en versets. Mais quand Paul a écrit les épîtres, il n'y avait pas de découpage de versets. C'était la seule et même lettre. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Il y a 4 ans de cela, une jeune fille m'a posé la question. Papa, donc vous savez qui c'est, est-ce que tu crois au coup de foudre? Alors, coup de foudre, dans la voiture. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait partie des discussions de la famille Gauss. Hein? Les coups de foudre. Alors, j'ai dit, les coups de foudre, il y a les éclairs, les tonnerres. Et oui, quand il y a un coup de foudre, il y a les orages. Hein? Il y a de l'orage dans l'air. Alors, on a eu une discussion, c'était notre discussion de famille, mais je vous le dis parce que ça me rappelait cette situation quand j'ai préparé la prédication. Mais même si on peut croire au coup de foudre, après tout, que quand on voit quelqu'un, on est bouleversé. Oh, c'est lui, j'en suis sûr. Bon. S'il y a le coup de foudre, admettons, je pense qu'il faut quand même prendre beaucoup de temps pour la réflexion et prendre du temps pour connaître l'autre. Moi, je finis par y croire, coup de foudre. Écoutez, demandez à ma fille, vous verrez. Mais je pense qu'elle a pris 2 ans. Elle a pris 2 ans. On lui a dit, écoute, ça s'est passé de manière, c'est vrai, formidable. Mais on te conseille de prendre 1 an ou 2 ans pour connaître ce garçon qu'elle a rencontré dans un camp de famille. Et c'est vrai que, même s'il y a le coup de foudre, ne tombons pas dans cette erreur de croire que c'est gagné, il faut prendre du temps. Si on est sérieux, on ne se précipite jamais. Quand on est sérieux, on prend du temps. Et on donnera à l'autre aussi le temps de nous connaître. Parce que je crois qu'on veut connaître l'autre, mais quand on est intelligent, on veut aussi que l'autre puisse véritablement nous connaître. Le discernement de la volonté de Dieu se fait au fur et à mesure que l'on apprend à connaître l'autre. Moïse avait un appel. Moïse avait reçu un appel. Ça aussi, les jeunes, bon, je ne l'inculpe pas parce que je parle uniquement du couple et de la famille, mais Moïse avait quand même un appel. Et ce n'est pas du tout sûr que cet appel était partagé. Heureusement que ce problème n'a pas annulé l'appel de Moïse. Imaginez-vous que le mariage avec Séphora ait annulé l'appel sur Moïse. Ça n'aurait pas été catastrophique. Mais vous savez, ça arrive, ça. Là, je change de sujet. Mais c'est arrivé que d'avoir fait un mauvais mariage a annulé l'appel de l'un ou de l'autre. Parce que la personne en question n'était pas du tout dans le coup. Et on le voit, ça, des gens qui ont dit, ah, moi, non, moi, je me suis marié avec un toubib, avec un ingénieur, moi, je ne me suis pas marié avec un pasteur. Quand on s'est marié, j'étais ingénieur. Je donne un exemple. Mais ça fait peut-être partie des discussions que l'on développe dans le couple quand on est chrétien. Chérie, si le Seigneur m'appelle au ministère, qu'est-ce que tu en penses? Si la personne ressent un appel dans son cœur, vous comprenez bien qu'il vaut mieux en discuter de ça. Vous voyez? Et il y a déjà, ils discutent de rien. C'est les petits oiseaux, voilà, c'est merveilleux, on s'est promené, c'est merveilleux. Écoutez, mais promenons-nous, effeuillons les marguerites, si vous voulez, moi ça ne me gêne pas. Mais discutons en même temps. Moi, j'ai vu des gens pleurer, j'en ai vu, je vous le dis avec de l'humour, mais moi, j'en ai vu des gens pleurer. Monsieur Gault, j'avais reçu un appel. Elle ne veut pas, elle n'en veut pas. Vous n'en avez pas discuté? Non, pour moi, c'était évident. J'avais reçu un appel, elle allait entrer dans l'appel. Mais ça, c'est pas évident. Ce que vous comprenez, mes frères et sœurs, on aborde des sujets, c'est du bon sens. C'est tout ce que je vous dis, on peut prendre le livre des Proverbes et le justifier d'une façon ou d'une autre. On prend le temps de connaître l'autre et on donne à l'autre le temps de nous connaître. Moïse avait un appel. Et d'ailleurs, quand il a appelé son fils Gershom, ça veut dire étranger là. Il montre par le prénom qu'il donne à son fils qu'il savait que le temps qu'il passait à Madian était un temps provisoire. Il avait un appel, c'était un temps de formation dans le désert. Il savait qu'un jour, Dieu l'amènerait à accomplir son appel. Il ne faut jamais faire des choix en période de crise. Je suis sûr que Dieu a voulu que nous sachions ce problème dans la vie de Moïse, parce que tout Moïse qu'il était, il a fait un choix en période de crise. On va voir, ça aurait pu très mal se passer. Quand on a des périodes, on a tous des périodes de crise, tous. Oui ou non, vous avez jamais eu des fois un moment de déprime profonde, ça peut durer 3 jours, ça peut durer des mois. Est-ce que ça peut arriver? Et il ne faut pas faire des choix pendant une période de crise. Quand quelqu'un est dépressif, il peut faire des choix qui vont lui être fatals. Ou inversement, il y a des gens, ils font une expérience formidable, ils sont heureux, ils sont euphoriques, ils sont joyeux. Alors tout d'un coup, ils disent, allez, on se marie demain. Mais ce n'est pas parce qu'on est très joyeux qu'il faut s'affoler. Et il y a des gens qui se sont précipités en période de déprime ou en période d'euphorie. Vous savez que c'est vrai ça. Il ne faut jamais se précipiter dans une période de crise. Dans une période de crise, il faut rester dans le calme et la confiance. Déjà que quand tout va bien, il faut y être, on a quand même la confiance. Mais à combien plus forte raison, quand je traverse ce moment de crise, ces périodes de la vie où on est mal dans sa peau, où ça nous permet de nous rapprocher de Dieu, ça nous arrive à tous. Il n'y a pas un homme que je connaisse qui n'ait pas eu une période de crise. Ne faites jamais ça. De prendre une décision, dans une période de crise, qu'elle soit déprimante ou qu'elle soit euphorique. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne se marie pas que pour être heureux. Bien sûr qu'on se marie pour être heureux, parce qu'il y a du bonheur dans le mariage. Moi, je le crois vraiment. Mais on se marie pour recevoir du bonheur, mais je crois qu'on se marie pour contribuer au bonheur de l'autre. Les jeunes qui voulaient vous marier, est-ce que c'est important pour vous de contribuer au bonheur de l'autre ? Je l'ai dit l'autre jour, si vous êtes égoïste, ne vous mariez jamais. Donc, pour contribuer au bonheur de quelqu'un, vous avouerez qu'il faut un minimum de maturité. Est-ce qu'on peut rendre heureux quelqu'un si on n'est pas responsable? Bien sûr que non. L'amour, c'est quelque chose qui grandit petit à petit. Il y a, on parlait du coup de foudre, il peut y avoir dès le départ un amour profond, sincère, vrai, extraordinaire, je le crois. Mais je crois aussi à cet amour qui grandit petit à petit. Mais il y a des choses qu'on prend pour de l'amour, écoutez-moi bien les jeunes. Et il y a des choses qu'on prend pour de l'amour, mais en vérité, elles ne sont pas de l'amour. L'attirance, j'en ai parlé dans le troisième point dimanche. L'attirance, est-ce que c'est une forme d'amour? L'excitation charnelle, physique, la convoitise sexuelle, certains considèrent la convoitise sexuelle comme de l'amour. Mais moi, je vous dis que ce n'est pas de l'amour. Et ce matin, préparant cette prédication, je pensais à un garçon dans l'Ancien Testament qui était fou amoureux, malade d'amour de sa demi-sœur. Vous connaissez l'affaire, hein? Amon et sa... Comment elle s'appelait sa sœur, sa demi-sœur? Tamar. Il était tellement fou qu'il en était malade. Il a même fait le malade pour arriver à ses fins. C'était de la convoitise sexuelle. Il en était fou. Il en était tellement fou d'amour qu'il a voulu coucher avec elle. Et une fois avoir couché avec elle, la haine qu'il a eue pour cette fille a été plus forte que l'amour qu'il avait pour elle avant. Vous pourrez le vérifier dans 1 Samuel, 2 Samuel, chapitre 13. Mais cet exemple, il est là, pour nous, pas pour qu'on critique cette situation, pour que nous comprenions que l'attirance, l'excitation et la convoitise sexuelle ne sont pas de l'amour. Ça, l'attirance sexuelle existe dans le couple. Il faut qu'il y en ait. Il faut qu'il y en ait. Chez des jeunes couples qui viennent se marier, il doit y avoir cette attirance dans le cadre du couple. Mais ce n'est pas parce que vous êtes attiré sexuellement par quelqu'un que c'est une forme d'amour qui va vous amener le bonheur. Croyez-moi. Vous savez, moi, je m'occupe de centaines de personnes. Tous les jours, j'ai presque un coup de fil par rapport à des problèmes de couple. Hier, je suis resté jusqu'à 1 heure dans mon bureau avec un problème de couple. Voilà, des gens qui se déchirent parce qu'ils ont confondu toutes ces choses que nous sommes en train de développer ce matin. On prend ces choses pour de l'amour. On prend ces choses pour de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est beaucoup plus sérieux que l'attirance physique. Béni soit Dieu, moi je comprends qu'un garçon regarde une jeune fille, qu'il soit attiré par elle parce qu'elle est jolie. Est-ce qu'un garçon a le droit de regarder une jeune fille de la tête aux pieds? Allez, répondez-moi. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce que c'est un péché? Bien sûr que non. Je pense que ne voyons pas le mal partout, de grâce. De grâce. Mais, je le répète, l'attirance physique n'est pas forcément de l'amour. Ça peut être une préparation profonde au péché, croyez-moi. Mais ça, il faut le dire, les jeunes, parce que c'est sûr, moi je comprends. Je comprends quand quelqu'un me dit, moi, vous savez, je veux absolument que ma femme me plaise physiquement. Mais vous avez raison. Mais il ne faut pas qu'elle vous plaise que physiquement. Parce que s'il n'y a que le physique, la passion, ça sera vite de l'obligation un jour ou l'autre. C'est trop sérieux, mes frères et sœurs, c'est trop sérieux. Dans le mariage, tout ça pour vous dire quoi? Que dans le mariage, il faut chercher à acquérir de la maturité. On ne se marie pas n'importe comment. Il y a, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, mais ça c'est un vrai problème, c'est grave, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont mûrs physiquement avant d'être mûrs intellectuellement, psychiquement et bien sûr spirituellement. Il y a des jeunes filles à 12 ans, elles sont formées entièrement, vous comprenez bien qu'elles sont, elles sont mûres physiquement, mais ce n'est pas pour ça que quelqu'un est mûr spirituellement. Et comme certains sont mûrs physiquement, ils pensent qu'ils le sont moralement, et ça, ça ne va pas du tout, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut comprendre pourquoi Dieu veut que l'on ait une communion avec lui. Parce que si on n'a pas de communion avec Dieu, les jeunes, si vous n'avez pas de communion avec Dieu, vous risquez de vous faire attirer par les pulsions physiques. Parce qu'elles existent, les pulsions physiques. Elles sont normales. Mais mes frères et sœurs, les jeunes, s'il vous plaît, par pitié, je vous le dis parce que je suis père, je vous le dis parce que les parents, nous avons souffert de voir des situations dans l'église dégénérer, parce que le physique a pris le contre-pied sur le spirituel. On ne se marie pas par pulsion, on ne se marie pas pour fuir ses parents. Combien l'ont fait? Vous le savez, combien l'ont fait? On ne se marie pas pour faire comme les autres. On ne se marie pas parce qu'au travail, il y en a marre. Ils n'arrêtent pas de me mettre en boîte. Alors moi, j'en ai marre, je me marie comme ça. On me cassera plus les pieds au boulot. Non? On ne se marie pas non plus parce que dans la famille, alors c'est quand que tu te maries? Hein? C'est quand? On a envie de faire la fête avec toi. Si c'est ça, on ne se marie pas. Alors la pression de la famille, moi je comprends que des parents aient envie que leur enfant se marie. Mais on ne se marie pas non plus sous la pression de l'église. Mes frères et sœurs, gardons-nous d'exercer la pression sur des gens parce qu'ils sont ensemble. Il faut faire attention à toutes ces formes de pression parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, tout groupe exerce une pression. Qu'on le veuille ou non sur quelqu'un, dès qu'on est en groupe, il y a une forme de pression qui s'exerce les uns vis-à-vis des autres. Et on ne se marie pas pour céder à une pression. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est sérieux. Quand un projet est prématuré, c'est rare quand ça finit bien. Un exemple, des jeunes gens, on pense à un garçon de 17 ans. un garçon de 17 ans qui fréquente une jeune fille du même âge. Même si la jeune fille à 17 ans s'est prouvée, est un petit peu plus mûre psychiquement, psychologiquement que le garçon. Mais un garçon qui a encore 16 ans ou 17 ans, il est encore en train de se former. Son caractère n'est pas terminé. Vous le savez ça? À 17 ans, un jeune garçon n'a pas fini la formation de son caractère. À 20 ans, je peux vous dire qu'il ne sera plus le même. Moi, j'ai demandé la main à Isabelle à 17 ans et demi. Elle n'a pas voulu de moi. Il m'a fallu attendre 22 ans. Pas de plus. L'âge de 22 ans. Elle a accepté. Quand on change en bien, c'est bien. Mais vous savez, entre 17 ans et 20 ans, ou 17 et 22 ans, on change. Mais on ne change pas tous en bien. Oui ou non? Il y a des gens qui changent en mal. Et les jeunes filles, moi je pense aux jeunes filles très sérieusement. Parce que si vous saviez, mes frères et sœurs, la quantité de filles, de femmes, qui m'ont appelé, qui m'ont écrit, qui m'ont supplié de les pardonner, monsieur Gaud, je vous demande pardon. Il y a une jeune fille qui était ici, il y a quelques années. Je vous donne cet exemple, il me vient à l'esprit. Je pourrais passer la journée à vous donner de témoignages comme ça. Je dis bien la journée. Une jeune fille, ici, une fille bien, mignonne, sérieuse, intellectuelle, qui aimait le Seigneur. Elle a rencontré un jeune homme qui faisait les mêmes études que lui. Il était chercheur. Ce garçon était impeccable, impeccable. Et quand elle lui a dit, tu sais, moi j'ai pris le baptême, je vais à l'église, elle lui a dit, ah écoute, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Moi je t'aime, je ne vais pas t'empêcher d'aller dans ton église. C'était un musulman. Ils se sont mariés et ils ont terminé leurs études. Lui a eu un très très haut diplôme en recherche. Et il est aujourd'hui dans un pays arabe, hein, je ne sais plus lequel c'est, un pays à 99%, en Arabie Saoudite, je crois, oui. Cette jeune fille est cloîtrée, elle m'a dit, monsieur Gaud, je ne peux plus rien faire. Je suis là-bas, en Arabie Saoudite, je ne peux plus rien faire. Si je veux, trois lettres, cinq ou six pages, où elle pleure. Vous comprenez, mes frères et sœurs, le mariage, c'est sérieux. C'était une, je vous assure, moi, c'est une jeune fille qui était comme ma fille. Mais bien sûr, elle est tombée sur... Vous savez, un garçon, tant qu'il n'a pas la fille, c'est bizarre. Tant qu'il n'est pas arrivé à ses fins, il est gentil. Il est même mieux que des chrétiens. Moi, je fréquente un gars, je t'assure, il est mieux que les jeunes de l'église. Si tu savais comment il attentionnait avec moi, vous allez voir une fois qu'il vous aura eu, comment il va être attentionné. Frères et sœurs, vous croyez que Dieu s'amuse avec nous quand il nous dit « Tu n'attelleras pas un âne et un mulet ensemble ?» Oui, comment il dit ? Un âne, un bœuf et un âne ensemble. C'est une image de l'Ancien Testament. Mais enfin, elle est pour nous expliquer que si on n'est pas disparate, si on est disparate, ce n'est pas la peine de chercher à former un foyer. Je reviens à mon sujet, c'est-à-dire que quand on est jeune, notre caractère n'est pas encore formé. Et c'est pour ça qu'on conseille aux jeunes d'attendre la vingtaine d'années. Pourquoi ? Parce qu'en dessous, les gens ne sont, leur caractère n'est pas entièrement formé. Si on change en bien, béni soit Dieu. Mais je peux vous dire que bien souvent, s'il n'y a pas de communion avec Dieu, on ne change pas en bien. D'où l'intérêt de rester pur avant le mariage, parce qu'après il y a des blessures et les gens ils souffrent, et il y en a qui rigolent peut-être, mais il y en a un des deux qui souffre, et je peux vous dire qu'après il faut l'assumer ça. Moi je vous assure, en prêchant là, il y a plein d'images qui me viennent à l'esprit, de témoignages. Je pourrais vous en citer quelques-uns, mais c'est peut-être pas utile. C'est pour cela, mes frères et sœurs, les jeunes, que vous devez vous appliquer à chercher le Seigneur. Le matin, appliquez-vous, lisez votre Bible. Regardez un texte avec moi. Je ne me reste pas beaucoup. Je voudrais quand même qu'on prenne encore une dizaine de minutes, s'il vous plaît. Dans le livre des Proverbes, regardez avec moi. Je vous ai dit que le livre des Proverbes est rempli de conseils. Ce sont des conseils qui viennent de Dieu lui-même. Même si c'est l'Ecclésiaste Salomon qui l'a écrit, ça vient de Dieu. Regardez avec moi, psaume 1er. Les jeunes, s'il vous plaît. Proverbes, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ça ? Vous êtes sûr ? Ça m'étonnerait. Proverbe chapitre 1er, verset 8. Regardez mes frères et sœurs, les jeunes, écoutez-le. Parce que je sais que certains, quand on est adolescent, on en a marre des fois d'entendre les conseils du papa ou les conseils de la maman. Mais en vérité, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Proverbe 1, verset 8. Écoute mon fils, l'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » Si on va au verset 5 de ce même chapitre, il est dit que le sage écoute. Mais regardez, on va partir du verset 2. Il y a quatre verbes que j'aimerais que vous souligniez dans votre Bible pour comprendre ce que ça veut dire écouter. Regardez. « Pour connaître ». C'est très sérieux, parce que c'est comme ça qu'on travaille sur la maturité. « Pour connaître la sagesse et l'instruction ». Deuxième verbe. « Pour comprendre les paroles de l'intelligence ». Troisièmement. « Pour recevoir ». Troisième verbe. « Des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture ». « Pour donner », quatrième verbe, au simple du discernement et au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute. On n'écoute pas pour dire, vas-y, t'en as pour combien? Non. On écoute dans le but de connaître les paroles de l'intelligence. L'intelligence, c'est cette capacité de s'adapter à une situation. Pour comprendre, pour recevoir et pour donner, il faut écouter. Mais les jeunes, écoutez-moi les jeunes. Les ados, ceux qui écouteront le message par Internet, écoutez bien. Il faut écouter. Il faut écouter vos parents. On n'est pas parfait. Il n'y a pas de parents parfaits. Il n'y a pas de mari parfait. Il n'y a pas d'épouse parfaite. Mais quand on aime ses enfants, on donne des conseils. Il faut quand même en tenir compte. Les jeunes, écoutez-moi, je vous le dis, certains d'entre nous, des couples parmi nous, nous avons connu des échecs pour la simple et unique raison que nous n'avons pas écouté les conseils de nos parents. Voilà le résultat. Quand la Bible dit « Mon fils, ne méprise pas les conseils de ta mère », il faut écouter. Il ne faut pas dire « Bon, ça fait 10 fois que tu me le dis ». Mais moi, il me semble que si ça fait 10 fois, c'est que c'est peut-être important. Non ? Je ne sais pas. Et une fois de plus, l'intérêt d'avoir une bonne communion avec Dieu, parce qu'une bonne communion avec Dieu va développer un bon climat dans la famille, on va pouvoir partager, on va pouvoir se faire confiance, le jeune homme pourra parler à ses parents. Je disais hier à quelqu'un, j'ai dit, mais attendez, vos enfants, les enfants, moi je me souviens, je le dis parce que je suis père, avant d'être pasteur, je suis d'abord un père. Et je me souviens, notre fille, quand elle a traversé l'adolescence, Esther, quand elle a traversé l'adolescence, quand elle avait besoin de parler, alors franchement, 11 heures du soir, je peux rentrer, je peux parler. La première fois, j'écoute, mais t'as vu quelle heure il est? Moi, je suis fatigué, j'ai besoin de dormir. Ah, mais je sais bien que je ne pouvais pas vous parler. Isabelle m'a dit, tu vois, on est passé à côté d'un partage. Quelques jours après, je peux parler. Elle s'est assise sur le bord du lit et on a parlé. On a prié, on a peut-être pleuré. Et j'ai réalisé ce jour-là que non seulement il faut que nos enfants nous écoutent, mais il faut que nous, on soit prêts à les écouter quand ils ont envie, parce qu'ils n'ont pas les mêmes horaires que nous, croyez-moi. Mais ça, ça vaut la peine peut-être de perdre une heure de la nuit. Parce que je vous assure, les enfants, ils nous testent plus que ce que nous pensons. C'est sûr que si vous, quand ils viennent vous voir, alors j'ai quelque chose à te dire. T'as vu quelle heure c'est? On est déjà en retard. Eh bien, je vais vous dire, ils doivent se dire, eh bien, heureusement qu'on n'a pas rentré dans le problème. Mes frères et sœurs, les ados, vous le verrez, c'est le soir, avant d'aller au lit, qui viennent, maman, je peux te parler? C'est vous, c'est pas vrai, les parents. Mais tant pis, dormons une heure de moins. Mais ne gâchons pas ce moment où on peut être en bénédiction à ses enfants. Parce que si un adolescent ne peut pas parler à ses parents, je vais vous dire, de toute façon, il va trouver quelqu'un d'autre à qui parler. Et ça ne sera pas forcément la bonne personne, parce que ce sera au lycée, ça sera avec les copains, ça sera dans la rue, avec des païens qui iront chercher les conseils. Et je peux vous dire que ça se passera beaucoup plus mal, croyez-moi. L'Église doit jouer ce rôle. On doit, c'est pour ça que les frères, les sœurs, nous les adultes, nous devons nous appliquer à partager, à donner des conseils. Les adolescents, n'ayez pas peur de réclamer un conseil supplémentaire d'autres parents. Allez voir. Moi, vous savez, ça m'est arrivé, depuis que je suis pasteur ici, à 7 ou 8 reprises, d'aller voir tous les anciens de l'église l'un après l'autre. Et de leur dire, voilà, j'ai besoin, qu'est-ce que vous me conseillez? Et souvent, tous les frères m'ont donné le même conseil. Si je suis encore pasteur au milieu de vous, c'est parce que, je me rappelle, il y a une année, on m'avait proposé de prendre une responsabilité dans le mouvement. J'ai été voir tous les anciens de l'église, ils m'ont dit, Monsieur Gault, Dieu vous a appelé à être pasteur. Restez pasteur. Tous les anciens m'ont donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, m'ont donné le même conseil. Mais imaginez-vous que sur un moment de faiblesse, je veux dire, quand même, on me donne une responsabilité comme ça. Mais voyez, j'avais, il y a 5 ou 6 ans de ça, j'avais 44 ans. Et j'ai 50 ans cette année. Et je peux vous dire que c'est merveilleux d'aller demander conseil aux anciens. Les jeunes, si nous, adultes, nous le faisons encore, les jeunes, ne vous permettez pas de construire, d'envisager, de fonder un foyer sans demander conseil. Réclamez des conseils. On est là pour ça. On est là pour prier, pour louer, pour chanter, pour intercéder. Mais on est aussi là pour jouer notre rôle de conseiller dans l'Église. L'Église doit jouer ce rôle de conseiller, pas pour télécommander des mariages, mais pour aider les jeunes qui veulent se marier. C'est bien d'amener la réflexion. On va voir le problème de Moïse, justement. On continuera avec ce problème et la qualité de l'amour. Comment Moïse a été confronté à un problème suite à l'appel de Dieu? C'est impressionnant quand il n'y a pas cette harmonie dans le couple. On partagera ces choses. Je voudrais presque vous mettre l'eau à la bouche. Comment un conflit, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, ça peut vraiment dégénérer? Parce que ça a failli dégénérer grave, cette affaire de Moïse. Il a failli en perdre la vie.